notre sujet de méditation, un titre qui ne vous étonnera pas, que vous connaissez bien, c'est l'obéissance. L'obéissance. Évidemment, dans une étude comme celle de l'obéissance, nous retrouverons forcément des éléments que nous avons trouvé ailleurs, dans d'autres études, cela va de soi. Mais quand même, il est nécessaire que nous fassions une part à cette question de l'obéissance. On pourrait même lui faire une part plus large. De parler de l'obéissance, ça pourrait demander plusieurs réunions. Je pense que nous allons nous contenter d'une seule réunion. Nous lisons dans Romains 15 et verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Nous voyons tout de suite par cette première lecture que le but qu'avait l'apôtre Paul, le but qui était donné à son ministère, c'était amener les païens, c'est-à-dire ceux qui sont absolument en dehors de l'exercice de la foi, en dehors de la connaissance de Dieu, amener les païens à l'obéissance. Et alors, pour atteindre ce but, il avait à sa disposition la parole, les actes, la puissance des miracles et des prodiges, la puissance de l'Esprit Saint. Vous voyez, tout en somme s'employait, tous les moyens divins s'employaient pour amener les païens à l'obéissance. Aussi lire, puisque nous sommes dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, et le verset 5, « Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » On retrouve ce but, « amener à l'obéissance tous les païens ». Alors ici, nous avons une précision, l'obéissance de la foi. Et puis, nous pouvons encore aller à la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Encore là, nous voyons que le but à atteindre en adressant la parole de l'Évangile aux païens, c'est l'obéissance. L'obéissance de la foi, l'obéissance. Alors, voyons tout de suite ce qu'est l'obéissance. Bien sûr, il faut dire des choses simples d'abord. L'obéissance, c'est d'une façon générale la soumission à la volonté de quelqu'un, d'une part, la soumission à la volonté de quelqu'un, ou d'autre part, la soumission à une nécessité reconnue indispensable. Et dans l'Écriture, l'obéissance, c'est les deux choses à la fois. La soumission à la volonté de quelqu'un, ce quelqu'un étant Dieu, et la nécessité, et l'obéissance à une nécessité reconnue indispensable, et ça mérite méditation, ça mérite réflexion. L'obéissance à une nécessité reconnue indispensable, cette nécessité, c'est celle qui est liée à la vie véritable. À la vie véritable. Les hommes en ce moment naissent sur la terre et sans, ils n'ont pas la vie au sens biblique du terme, au sens élevé du terme, ils sont même regardés comme morts, ils sont spirituellement morts, ils ne sont pas dans l'obéissance. L'obéissance n'est pas dans l'homme. Quand on dit que l'homme est pécheur, qu'il naît avec sous le joug de cette puissance du péché, eh bien, cela veut dire qu'il n'a pas l'obéissance. Nous aurons l'occasion de voir, il ne connaît pas, il ne peut pas obéir. Ne demandez pas à quelqu'un, quel qu'il soit, si brave soit-il, comme on dit, que ne me demandez pas d'obéir à Dieu si il n'est pas, ne s'est pas approché, s'il n'a pas reçu la grâce, il ne s'est pas repenti. Ne lui demandez pas d'obéir, c'est lui est impossible. Alors, ça, j'ai déjà eu l'occasion d'insister, mais j'y reviens là-dessus, parce que c'est l'erreur que commettent bien des chrétiens. Ils sont en face de, mettons, de personnes nouvelles qui écoutent malgré tout, qui peut-être sont un peu intéressées, et puis tout de suite, on va leur dire, mais il faut que vous fassiez ceci, mais il faut que vous fassiez cela, mais vous ne pouvez pas faire telle autre chose, parce que la parole de Dieu dit que, etc., etc., il y a un commandement, il y a ceci, il y a cela. Alors, on les place devant la nécessité d'obéir, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et l'obéissance est donc l'aspect essentiel de la foi chrétienne. On peut même dire, puisque nous avons trouvé tout à l'heure l'expression « l'obéissance de la foi », que l'obéissance est la pierre de touche de la foi vraie, la pierre de touche. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas d'attestation de la foi. La foi reste alors quelque chose de purement théorique. Donc l'obéissance de la foi, nous comprenons bien l'expression de Paul, amener les païens l'obéissance de la foi, à cette obéissance qu'exige, que nécessite la foi que l'on prétend, comme dit Jacques, dans son chapitre 2, eh bien toi, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi avec les œuvres, mais sache que la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi sans l'attestation et l'obéissance n'est pas la foi, elle est une théorie, elle est une pensée, elle est une idée et c'est tout. D'ailleurs, dans la société d'une manière générale, ça ne peut pas manquer d'être ainsi, dans la société humaine d'une façon générale, l'obéissance est inévitable. Si l'on veut travailler et manger, on est obligé d'obéir. Ça, si on veut obéir absolument à personne, je sais bien qu'actuellement, on essaie d'échapper à toute obéissance, il y a même un esprit de révolte un peu partout. Et comme bien des retraités l'ont dit, et je suis parmi eux, j'ai fait toute une carrière dans l'administration, eh bien, avec d'autres retraités, je dis, Dieu soit loué, qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus à travailler et à commander un personnel. Parce que c'est devenu extrêmement difficile, ceux qui ont la charge de diriger quelque chose ne sont plus obéis, on ne veut plus leur obéir, et je ne sais pas comment ils se débrouillent, comment ils font, moi j'ai entendu au moment d'une grève qui est, date de deux ou de quelques années, là, c'était sous le ministère de Chirac, sous le ministère, je veux dire, sous le gouvernement de Chirac, j'ai entendu les représentants de la SNCF dire « Nous sommes en grève non seulement pour une question de salaire, mais nous sommes en grève aussi parce que nous ne voulons plus être commandés. Oh. » Oh, ils ne veulent plus être commandés. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, la SNCF? Bon. Vous voyez, c'est une chose absolument stupide. On va vers l'anarchie. Si on n'obéit pas, on va vers l'anarchie. Dieu, naturellement, recommande l'obéissance sous différentes formes, je dirais plutôt à différents niveaux, aux différents niveaux où elle peut se manifester. La parole de Dieu recommande l'obéissance aux enfants à l'égard de leurs parents. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 1. L'obéissance des enfants à leurs parents. Et c'est une chose nécessaire. Elle recommande aussi l'obéissance des femmes à leur mari. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire ? L'obéissance des femmes à leur mari. Hein? Et nous savons que là, évidemment, il y a aussi un esprit de contestation. Hein? Et puis, il faut dire qu'il y a aussi des cas où le mari est indigne. Et alors on se demande comment l'épouse, qui elle peut-être peut avoir un tout autre comportement, comment l'épouse peut obéir à un mari qui est ivrogne, par exemple, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, ça ce sont des cas exceptionnels. Cependant, la règle, l'écriture, l'énonce, femme, obéissez à vos maris. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Puis, la parole de Dieu recommande l'obéissance aux serviteurs à l'égard de leur maître. Éphésiens, chapitre 6, verset 5. Elle recommande aussi l'obéissance des fidèles à leur conducteur. Hébreux 13, 17. Eh bien, là aussi, n'est-ce pas, certains pourront nous dire, oh oui, mais enfin, je ne peux pas absolument faire tout ce que mon pasteur me dit. C'est vrai qu'il y a des cas où on ne peut pas ne pas admettre l'exception. C'est vrai, n'est-ce pas? Si le pasteur lui-même n'est pas obéissant, il est évident que cette recommandation d'obéissance des fidèles à leur conducteur se trouve stoppée, se trouve en échec. Hein, c'est évident. Alors, cela suppose l'obéissance des fidèles à leur conducteur, que le conducteur est lui-même très obéissant à toute la parole de Dieu. Et puis alors, ensuite, c'est pas fini, l'Écriture nous recommande aussi, de la part de Dieu, l'obéissance aux autorités, l'obéissance des citoyens aux autorités. Par exemple, 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. Alors, le monde moderne ne veut plus de l'obéissance. Et pour lui, cette obéissance est une aliénation. C'est le mot a été assez souvent employé, n'est-ce pas, par les contestataires. C'est une aliénation. Ils aliènent, quoi donc, leur liberté. Tout cela vient d'une mauvaise conception, une conception qui est celle de la chute, qui est dans les conséquences de la chute. On pourrait analyser plus profondément la chose et on la mettrait en évidence. Alors, le monde moderne ne veut plus de l'obéissance, c'est une aliénation, c'est un asservissement, c'est une frustration. Ce sont des termes qui ont été employés par les contestataires. Aussi arrive-t-il que la société chancelle, vacille comme une cabane, chancelle comme un homme ivre, dans Ésaïe 24. Alors, reprenons l'obéissance à Dieu. obéissance à Dieu, à sa parole, à sa volonté, reprenons cette obéissance. Et nous lui découvrons maintenant deux aspects que nous dégageons l'un de l'autre uniquement pour l'enseignement. Tout enseignement a besoin de séparer une partie de l'autre pour les examiner, mais ça ne veut pas dire que les parties qu'on examine séparément soient elles-mêmes séparées, non. Mais seulement pour les besoins donc de l'enseignement, disons que nous découvrons deux aspects dans l'obéissance à Dieu. Le premier, très simple, c'est l'exécution de sa volonté, de la volonté de Dieu. Naturellement, la volonté exactement connue, l'exécution de sa volonté. Le Seigneur Jésus, lui, a tout de suite placé ça très haut. Il a dit, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Sa famille, c'est cela. La famille est ainsi. Et de tout sens, il nous a montré que faire la volonté du Père, c'était là la chose primordiale. Nous retrouvons donc la position que prend l'obéissance. Obéissance, exécution de la volonté de Dieu. Prenons le psaume 103 et verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Et ça nous que c'est dit, ça. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Voilà. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Donc, ces anges, élargissons, n'est-ce pas, l'idée d'ange, les anges sont des serviteurs de Dieu, nous sommes nous aussi tous, sans exception, des serviteurs de Dieu, et il nous est dit, bénissez l'Éternel, parce que vraiment, nous obéissons, et c'est une chose bonne, c'est une chose qui nous conduit à bénir l'Éternel, à louer l'Éternel, à lui être reconnaissant de pouvoir obéir à une volonté divine, à la volonté divine qui est parfaite, la volonté divine et cette obéissance. Nous aurons l'occasion d'appuyer encore sur ce côté, sur cet aspect, c'est l'obéissance nous conduit à la vie. Nous conduit là où il faut que nous allions à la vie véritable, à la vie éternelle. J'aurais dû lire 21 aussi. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Alors, si nous ne sommes pas dans les anges, nous sommes dans les armées. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc, le premier aspect, c'était l'exécution de la volonté de Dieu. Il y a un deuxième aspect. Qui est l'acceptation de cette volonté sans restriction et de tout cœur. L'acceptation de cette volonté sans aucune restriction et de tout cœur. Parce que nous pourrions exécuter la volonté de Dieu, mettons, en rechignant. Nous pourrions exécuter la volonté de Dieu sous l'effet, peut-être, d'une sorte de contrainte, sous l'effet de la peur. Il y en a qui veulent obéir à Dieu parce qu'ils ont peur. Or, ça ne peut pas être l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance, n'est-ce pas ? Si, par exemple, l'État nous demande d'alléger le percepteur et de verser telle somme, n'est-ce pas, c'est pas toujours de bon cœur que nous y allons, parce que nous voyons que les notes augmentent d'année en année, et puis, en plus de ça, n'est-ce pas, il faut donner un argent dont on peut peut-être avoir besoin. Mais on y va, pourquoi? On y va parce qu'on dit, si on n'y va pas, on va être saisi. Le percepteur va envoyer un huissier qui va nous prendre tout sauf un lit et une chaise, enfin, il va nous prendre tout le reste. Alors donc, par conséquent, on sait très bien qu'il y a des conséquences et que l'État, dans ce sens-là, ne plaisante pas. Tout au moins avec les bons contribuables. Avec les autres, c'est une autre affaire. Mais avec les bons contribuables, l'État ne... Alors donc, nous y allons sous l'effet d'une contrainte. Mais ce n'est pas de l'obéissance, ça. Nous nous conformons à quelque chose. Alors, si nous sommes chrétiens, nous y allons avec bon cœur aussi, parce que nous savons qu'il faut payer l'impôt, il faut se soumettre aux autorités. Bon, mais je parlais du monde en général, n'est-ce pas, qui obéit aux exigences des autorités ou de l'État sous l'effet d'une contrainte. Eh bien, il ne peut pas en être ainsi à l'égard de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait... Pour que l'obéissance soit agréée de Dieu, je pourrais obéir matériellement à quelques commandements ou quelques paroles de Dieu, lui obéir matériellement et ne pas être dans l'obéissance si je n'avais pas en moi, dans mon cœur, une acceptation de la volonté de Dieu sans aucune restriction. Une acceptation, on peut dire, heureuse. Donc l'obéissance ne doit jamais être considérée comme une contrainte. Alors, sa grande raison d'être, touchons à cela, il faut comprendre la grande raison d'être de l'obéissance. Mais c'est que cette obéissance est seule capable de faire régner l'ordre dans le grand univers, et dans la vie plus particulièrement, et je dirais dans notre propre vie à chacun, encore plus particulièrement. C'est l'obéissance qui va faire régner l'ordre. Pour en avoir une notion très exacte, imaginez que dans votre voiture automobile, mettons, un organe quelconque, prêtons-lui la parole un peu, n'est-ce pas, disent par exemple les pistons des cylindres qui vont et viennent dans les cylindres, mais nous en avons assez de cette affaire-là, n'est-ce pas, de monter et de descendre constamment. Nous voudrions agir autrement. Ou alors l'allumage, je dirais, ça ne nous plaît pas comme ça, nous voudrions que ce soit autrement. La voiture automobile ne marcherait pas. C'est pour dire tout simplement que toute machine que l'homme construit est établie en obéissance, en respect des lois physiques, des lois chimiques, des lois de la matière, des lois qu'on ne peut pas changer, l'homme ne peut pas les changer, ces lois-là. Il a besoin d'une voiture automobile, il a besoin d'une machine quelconque, eh bien, il la construit en se soumettant aux lois de la matière, aux lois... physique, n'est-ce pas? Il est obligé, là. Et pour la vie, l'homme rejetterait les lois qui gouvernent la vie. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il est mort. Il est mort. L'homme qui vient sur la terre et qui est nécessairement incapable d'obéir à Dieu, eh bien, il est mort, il ne peut pas être autrement, parce que il ne peut pas fonctionner comme la créature de Dieu telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle doit être pour vivre éternellement, puisque Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Il n'a rien créé pour la mort. Il a tout créé pour la vie. Seulement, voilà, il faut obéir. Il faut obéir aux lois de la vie, aux lois de Dieu, comme pour construire une machine, nous obéissons aux lois que nous mettons en service. La création et tous ses éléments n'existent et ne subsistent qu'en étant soumis aux lois de la nature, aux lois de Dieu par conséquent. Alors, ça, est-ce que la Bible le dit? Eh bien, voyons ce qu'elle nous dit. Prenons Job 39, Job chapitre 39, Job chapitre 39 et verset 34 à 38. L'Éternel, s'adressant à Job, dit: celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit: voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. Vous voyez ici, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas contester avec le Tout-Puissant, contester avec Dieu. C'est contester avec, par conséquent, les lois de la vie. Bon, mais nous allons voir d'autres passages. Le psaume 119. Le psaume 119 et le verset 91 qui est très formel sur ce que je viens de vous dire, verset 91 du psaume 119. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. En somme, le psalmiste ici qui est éclairé, c'est, vous savez, le psalmiste du psaume 119, comme des autres, mais enfin, nous le constatons là, est très éclairé. Il est éclairé vraiment, il voit les choses comme il convient, Dieu éclaire son cœur. Alors il nous dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Alors il va en tirer tout de suite la conséquence. Il va dire, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse péri dans ma misère. Si je n'avais pas pris, adopté ta loi, si je n'avais pas été poussé à obéir à ta loi, mais j'aurais péri. C'est par la désobéissance aux lois de la vie, aux lois de Dieu, que l'on ne peut pas subsister. Alors là, il a généralisé, c'est d'après tes lois que tout, absolument tout subsiste. N'importe quel système, n'importe quel être vivant dans la nature, n'importe quoi, tout subsiste par les lois de Dieu. Prenons par exemple les lois qui régissent le mouvement des astres. Eh bien, ces lois-là, elles sont observées, elles ne peuvent pas ne pas être observées, elles sont observées par des corps célestes qui n'ont pas, eux, de réflexion, qui ne peuvent pas s'insurger contre Dieu, qui ne peuvent pas contester, n'est-ce pas, et qui obéissent aux lois de Dieu. Tout subsiste par les lois de Dieu. Dans l'Apocalypse, la même chose, ce n'est pas la peine d'y aller, chapitre 4 et verset 11, là ce sont les anciens devant Dieu qui rappellent ceci, que tout demeure et subsiste par la volonté de Dieu, la volonté qui s'exprime en forme de loi. Donc, nous vivons dans un monde qui est organisé, qui a des lois, et les hommes sont véritablement, comme dit Paul, insensés et méchants de ne pas reconnaître ça. On se dit savant, et en réalité, on est un grand ignorant, même si on a fait beaucoup d'études, on est un grand ignorant si on ne veut pas reconnaître que tout dans l'univers est soutenu, régi et subsiste par l'effet des lois. Alors l'homme qui a rejeté les lois de la vie, puisqu'il n'est pas dans l'obéissance, puisqu'il ne veut pas d'obéissance, cet homme-là doit mourir. C'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, car si vous en mangez, vous mourrez. Si vous en mangez, vous désobéissez. Voilà une seule obéissance que je vous donne, une seule. C'était l'épreuve de l'homme, une seule obéissance. Si vous restez en cette obéissance, rien ne changera. Vous avez été créé pour vivre. Mais si vous mangez de ce fruit, et vous, par conséquent, vous manifestez un cœur désobéissant, une main désobéissante, vous mourrez, vous périrez, vous ne pouvez pas vivre. C'est simple, c'est excessivement simple, mais il faut le savoir, nous, chrétiens, il faut que nous le sachions. Quand nous commettons un péché qui est une transgression, une désobéissance, eh bien, nous sortons des lois de Dieu. C'est pourquoi il faut, étant chrétien, bien vite, se repentir, aller se repentir et demander au Seigneur de nous pardonner. Pas de vie possible, aucune vie n'est possible dans le désordre. Et si je vous parlais du corps humain, je ne vais pas le faire parce que nous ne sommes pas une académie de médecine, et puis en plus de ça, n'est-ce pas, ça nous demanderait trop de temps, mais simplement une allusion. Dans le corps humain, vous avez de ces mécanismes d'une finesse extraordinaire qui mettent en jeu des quantités infimes de substances, de certaines substances. Certaines substances agissent, les hormones par exemple, agissent à l'état infinitésimal, n'est-ce pas ? Eh bien, là, n'est-ce pas, si le moindre désordre, un désordre, c'est donc l'interruption ou le dérangement du fonctionnement, de ce fonctionnement très subtil. Si vous avez le moindre désordre, n'est-ce pas, ben, immédiatement, c'est la maladie, ça ne va plus. Et la maladie peut très bien aller directement à la mort. Donc, pas de vie possible dans le désordre. Physiquement, le désordre correspond à la maladie et à la mort. Je voudrais illustrer ça encore par une citation du livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 7. Ah ben, nous sommes là. Proverbe chapitre 7 et verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Voyons dans la femme étrangère, n'est-ce pas, toute séduction, tout ce qui est séduction. Voyez, retiens mes paroles, garde avec toi mes préceptes, observe mes préceptes et tu vivras. Mais si tu ne les observes pas, tu ne pourras pas vivre. En définitive, dans le vaste monde, rien ne subsiste autrement qu'étant soutenu par l'obéissance à Dieu. Vous avez deux passages, hein, dans les Colossiens, je le laisse, mais un autre dans les Hébreux, au chapitre 1 et au verset 3, que je vous lis. Il faut lire au début. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Il soutient toute chose, pas seulement la vie de l'homme, toute chose par sa parole puissante. Sans obéissance, c'est donc la chute. Sans obéissance, il n'y aura pas de bénédiction sans obéissance, mais je ne dis pas partielle, je dis complète. Il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de bonheur. Sans obéissance, c'est la chute. La chute de l'homme, c'est cela. La chute de l'homme vient de ce qu'il s'est départi de l'obéissance à Dieu. Et puis alors, deuxième chose, nous l'avons dit, pas d'obéissance, donc pas de foi. J'ai eu l'occasion de le dire à certains, hein, « Oh, moi, oui, je crois, j'ai la foi, etc. » Oui, mais regarde ce que tu fais. Tu fais, à la vue de tout le monde, tu fais des choses qui ne vont pas, et tu dis que tu es un croyant, que tu es un homme de foi, n'est-ce pas ? Eh bien, ça ne va pas. Ta foi, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas l'admettre, c'est pas possible. Rien, absolument rien, ne peut remplacer l'obéissance. Je veux dire par là que, par exemple, le culte extérieur, le culte que nous manifestons en nous réunissant, en priant ensemble, en chantant, en faisant la Sainte Cène, bon, ce culte qui doit être agréable à Dieu, s'il est rendu dans les conditions d'obéissance nécessaires, eh bien, le culte extérieur, les chants, et particulièrement... les chants animés actuellement, hein? Animés, quand je dis animés, le mot est bien faible, hein? Ces chants volubiles là, n'est-ce pas, avec applaudissements, on se lève, on a toujours les bras en l'air, j'ai rien contre ça, il y a des gens, des chrétiens qui aiment bien lever le bras, un bras ou l'autre, ou les deux à la fois. Bon, ça va bien un moment, mais on ne va pas toujours être comme ça. Dieu ne nous demande pas ça, n'est-ce pas ? Et puis alors, là, n'est-ce pas, on fait ça soulevé par un certain enthousiasme, disons un engouement. Alors on chante les chants qui va bien, puis alors les sept tambours, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de vous le dire, ils sont là en pleine activité. Et alors là, on s'imaginerait qu'avec ça, Dieu sera satisfait, que ce sera là quelque chose qui manifestera l'obéissance à Dieu. Mais pas du tout, pas du tout. Les protestations de foi, la prière même, il y a des formes de prière qui sont en dehors de l'obéissance. Alors, rien ne peut remplacer l'obéissance. Il faut, je parais là, prononcer, dire, en somme, la palissade, mais pourtant, il faut le dire, rien, parce que nous sommes sous l'effet d'une séduction. Attention, nous sommes sous l'effet d'une séduction dont nous avons à nous garder. Et l'ennemi veut nous faire croire que, avec pas mal de bruit, avec du mouvement, en étant debout, en dansant même, en applaudissant, en faisant toutes ces choses, n'est-ce pas ? Et puis en faisant des petites prières rapides là sur la tête des uns et des autres, que tout va bien et qu'on est dans l'obéissance, c'est une séduction. On n'y pense pas, on n'a pas réfléchi à ça, et on croit être dans l'obéissance, c'est faux. J'aimerais vous lire, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre premier, du livre d'Ésaïe, et au verset 10, chapitre premier, verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Chef de Sodome, c'est pas réellement à Sodome que Ésaïe s'adresse, mais c'est un qualificatif qu'il prend pour, en somme, adresser une injonction à certains qui se laissent séduire. Chef de Sodome, écoutez la parole, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, etc. Gage qui n'est pas du tout surpassé ou dépassé est un langage qui nous parvient. Voilà ce qu'est Dieu. Je détourne mon regard. Et j'ai pensé cela quelquefois dans certaines réunions et même dans certains cultes. Enfin, quand je voyais ce brouhaha, on se levait même, on circulait, on allait, n'est-ce pas? Il y avait du mouvement. Je me dis, mais là-haut, que fait Dieu? Ne détourne-t-il pas son regard d'une pareille chose? Une pareille chose qui était scandaleuse. Scandaleuse parce que c'était le mouvement de la chair. C'était l'engouement de la chair qui se manifestait, et non pas l'esprit. Alors, vous voyez comme c'est subtil tout de même, enfin, l'obéissance doit évidemment exclure le facteur séduction. Il y a un équilibre entre des rapports entre Dieu et l'homme, un équilibre. J'aimerais faire appel au psaume 33. Vous savez que pour étudier la parole, il ne faut pas avoir peur de tourner les pages. Parce que nous appuyons tout, il faut tout appuyer sur la parole. La parole de Dieu, c'est elle qui est la vérité, c'est elle qui est la règle. Alors je prends le psaume 33, verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. N'oublions pas que la parole de Dieu est opérante. Dieu ne parle pas en vain, lui. Il ne parle pas pour ne rien dire. Il ne parle pas de choses approximatives. Il parle la vérité. Jésus n'a parlé que la vérité. Jésus a parlé la vérité. Amen, amen. En vérité, je vous le dis. Et par conséquent, Dieu... quand il parle, la chose qu'il ordonne, qu'il dit, arrive. Mais vous savez, ça aussi, je vous invite à le méditer. Il ne faut pas voir simplement la création de Dieu, n'est-ce pas? Qu'il y ait là un cèdre, bon, et puis un cèdre apparaît, Dieu crée un cèdre. Bon, ça c'est vrai, n'est-ce pas? Mais la parole que nous venons de lire s'arrête pas seulement à des grands faits de la création. En réalité, quand Dieu parle, Dieu nous parle à travers sa parole, Dieu nous parle, mettons, parle à notre cœur, n'est-ce pas? Eh bien, quand Dieu nous parle, ce qu'il dit, la chose arrive. Alors, si nous ne nous plaçons pas dans l'obéissance à cette chose, n'est-ce pas? Eh bien, elle arrive sans nous, mais elle peut arriver contre nous. Elle peut arriver contre nous. Dieu parle, il a créé ses auditeurs. Dieu s'est donné des auditeurs. Il a parlé, il parle à la matière, il parle aux astres, mais il parle aussi à des auditeurs, l'homme notamment. Et nous voyons dans l'Écriture plus d'une fois l'injonction « Écoutez, écoutez, écoute, écoute, écoutez ». Il ne faut pas trop vite passer là-dessus. C'est un appel de Dieu qui nous dit « Écoutez, écoutez ce qui va, ce que je vais dire, écoutez ». Il y a aussi « Écoutez ma voix ». Écoutez ma voix et je serai votre Dieu, dans Jérémie 7, 23. Écoutez, a dit le Seigneur Jésus, et comprenez, Matthieu 15, verset 10. Alors, évidemment, en pensant toujours à l'obéissance, nous pourrons nous arrêter à l'objection que d'aucuns ne ferait, surtout peut-être des non-chrétiens, je pense, mais enfin quelquefois même des chrétiens, nous disant, mais l'obéissance, alors, c'est pas la liberté, ça. Mais s'il faut obéir, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Alors là, n'est-ce pas, la question est vite résolue dans l'Écriture. Dieu, nous, dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous a rendu, je dis bien, rendu à la liberté. Prenons Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 et verset 1, et nous avons ceci, chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ah, vous avez là donc quelque chose d'intelligent à faire. Ne vous laissez pas mettre sous le joug. Il va falloir distinguer entre eux. Ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui peut convenir à quelqu'un de libre et qui va entrer dans le champ de l'obéissance, d'avec et distinguer d'avec ce qui serait un joug de servitude. Donc, vous voyez que l'homme est libre. Et puis, dans 1 Corinthiens, deux fois, l'apôtre Paul dit « Tout est permis ». Et ça, c'est la grande règle, une grande règle qui apparaît dans l'Alliance Nouvelle. Nous ne sommes plus sous la loi. Dans l'Alliance Nouvelle. Donc ce n'est pas la loi qui va nous gouverner, la loi écrite, la loi exprimée, la loi du régime de Moïse. Non, ce n'est pas cela qui va. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous sommes régis par la grâce. Étant régis par la grâce, ayant en nous la grâce de Dieu, ayant en nous l'Esprit du Seigneur, nous allons savoir ce qu'il faut faire. Car Paul dit « Tout est permis, mais tout ne convient pas ». Le terme « ne convient pas » se trouve dans la tobe, et il est bien situé là. « Tout est permis, mais tout ne convient pas ». À vous donc de savoir ce qui convient ou ce qui ne convient pas. Comment allez-vous le savoir ? Par le discernement qui nous est si largement enseigné dans les Philippiens, dans les Romains, et même dans la parole du Maître, dans la parole même de Jésus. Le discernement, discernement des choses les meilleures, discernement pour connaître la volonté de Dieu. Il faut du discernement. Donc, c'est avec discernement. Mais un discernement qui est apporté par grâce, qui est apporté par l'Esprit de Dieu. Donc l'obéissance, nous arrivons à ceci, c'est que l'obéissance, quoique indispensable, absolument indispensable, nous l'avons dit, l'obéissance est libre et doit être libre. L'homme doit juger. Paul dit aussi, nous ne sommes jugés par personne, mais nous jugeons de tout. Nous jugeons de tout. Et nous avons la pensée de Christ. Voilà le bon discernement. Jésus, le Seigneur Jésus, lui-même, naturellement, a été obéissant à son Père, et on peut dire que l'obéissance fut la loi de sa vie sur la terre. Bon, maintenant, bien sûr, n'en parlons plus, mais sa vie sur la terre, cette vie qui nous est connue par les évangiles, eh bien, il fut obéissant, et ce fut la loi de sa vie comme fils de l'homme, et ce fut l'expression de son amour de fils, en amour filial. Il fut obéissant, donc, comme fils de l'homme, et c'est cette obéissance a exprimé son amour. Il nous le dit, n'est-ce pas? C'est parce qu'il aime le Père, parce que le Père l'aime, qu'il fait tout ce que le Père veut. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et alors, chose magnifique, c'est que l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, je ne vais pas m'y arrêter cette fois-ci, on l'a déjà vu, chapitre 5, versets 7 à 9, là nous voyons que par des cris, par des prières, des supplications, Christ a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils. C'est curieux, le Fils de Dieu vient parmi les hommes pécheurs, les hommes de la chute, il vient apprendre quelque chose. Oui, il vient apprendre l'obéissance, c'est-à-dire que dans sa nature, nous avons dit aussi que l'humanité de Jésus était le creuset dans lequel il préparait l'homme nouveau pour le salut. Eh bien, alors là, dans cette humanité qui était la sienne, il n'a pas trouvé l'obéissance, je vous ai dit, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, elle ne peut pas exister. Parce que l'obéissance requiert le lien de l'esprit avec le Saint-Esprit. Le lien, un lien. Or, ce lien n'est pas chez l'homme qui n'a pas rencontré Jésus. Donc, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance, bien qu'il fût fils. Il a rétabli, autrement dit, l'obéissance dans cette nature humaine. Il a rétabli l'obéissance. Mais il a lutté. Il a lutté, en somme. Il a repoussé toutes les conséquences de la chute. Il les a repoussées, balayées. Il en a délivré la nature humaine dans sa propre humanité, et cela pour le communiquer à tous ses disciples. Il a détruit les conséquences de la désobéissance d'Adam, et il peut enseigner l'obéissance. Il enseigne l'obéissance. Lui-même se montre comme obéissant à son Père. Et il faut dire une chose, c'est que l'obéissance s'étend à tous les domaines. À tous les domaines. Il y a quelque chose que nous allons voir dans 2 Corinthiens 10, chapitre 10 et verset 5, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Nous amenons, voilà, n'est-ce pas ? Le travail de l'apôtre Paul et le travail qu'il nous propose, qu'il propose à l'Église, d'amener toute pensée captive. Ce n'est pas seulement l'obéissance de fait, c'est bien l'obéissance de fait, mais l'obéissance de fait sera le corollaire de l'obéissance dans la pensée. L'obéissance, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut donc un cœur bien disposé, il faut un cœur dévoué, il faut un cœur intelligent, un cœur intelligent. Dans le livre des Proverbes, il nous est proposé cela, chapitre 14, verset 33, un cœur intelligent. David, lui, le roi David, savait gouverner le peuple avec des mains intelligentes. Qu'est-ce que c'est que ça, qu'un cœur intelligent, que des mains intelligentes? Ben, ce sont des mains, autrement dit des actions, ou un cœur, ce sont des pensées qui ont su retrouver le terrain de l'obéissance, qui sont vraiment acquis à l'obéissance pleinement. Et alors, c'est ça l'intelligence. La véritable intelligence, c'est cela. Alors, nous arrivons maintenant à notre conclusion. Il y a bien des choses qui seraient à dire encore, mais je pense que c'est suffisant. Disons que l'obéissance n'est pas quelque chose de mécanique. Sa source réside dans les pensées du cœur, toute pensée captive. Toute pensée captive pour l'obéissance, captive à l'obéissance de Christ. Notez que Dieu mène une action éducative parmi les hommes, parmi l'Église. L'Église, c'est son école. C'est l'école de Dieu. Il mène une action éducative. Depuis les lendemains de la chute, Dieu, par un patient effort, a tendu vers ce but, réapprendre à l'homme à obéir et lui redonner le moyen d'obéir. Lui réapprendre à obéir et lui donner le moyen d'obéir. Je pourrais vous montrer cela dans le Deutéronome. Le Deutéronome au chapitre 8. Au chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre, n'est-ce pas une action éducative ça, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez, c'est Dieu depuis toujours mène une action éducative. Donc Dieu aime l'homme, il ne veut pas le perdre, mais pour le sauver, il faut qu'il le ramène à l'obéissance totale, c'est-à-dire à l'état de sainteté et de perfection. Bah, nous aurons l'occasion de reparler de cela, état de perfection et de sainteté. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, l'état de sainteté ne peut pas être atteint. Il sera atteint par, précisément, un réapprentissage de l'obéissance. Il est beau ce passage. Hein. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Eh bien nous pouvons nous souvenir du chemin que Dieu nous fait faire depuis notre entrée dans l'Église. Il nous fait faire un chemin. Hein. Alors ne soyons pas étrangers à l'action éducative de Dieu. Comprenons ce qu'il nous fait faire, le chemin qu'il nous fait faire. Afin de nous humilier. Dieu ne peut pas manquer de nous humilier. Il faut qu'il nous humilie. Il faut qu'il nous éprouve pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Comment Dieu ne les voit-il pas? Ils sont de les cœurs et les reins. Oui, Dieu les voit, les dispositions des cœurs. Mais il ne veut pas les voir à l'état latent. Il veut les voir à l'état efficient. Les dispositions de ton cœur, je vais les voir. Ben, quand tu feras quelque chose, quand tu agiras, quand tu prendras des décisions, là, je vais voir les dispositions de ton cœur. Parce que si tu as de bonnes dispositions, et puis que tu restes assis comme un Bouddha. Eh bien, ça ne sert à rien, les bonnes dispositions de ton cœur. Ce qui m'importe, moi ton Dieu, c'est que les bonnes dispositions de ton cœur se mettent à l'œuvre et produisent des fruits, des œuvres. Alors, c'est pourquoi Dieu dit, pour savoir, pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non mes commandements. Je voudrais voir si tu vas garder mes commandements. Ça, c'est le côté liberté de l'homme. Tu sais ce que tu dois faire, je te mets en état de faire ce que je te demande. Ce que Dieu ordonne, il le donne, n'est-ce pas? Donc, je te mets en état de faire ce que je te demande, mais je vais voir si tu le fais. Et voir donc les dispositions de ton cœur. Alors, il s'agit ici des commandements. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, n'oublions pas une chose. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi est bonne, elle est bien de Dieu. Mais Paul nous dit qu'elle n'est pas pour le juste, qu'elle est pour le méchant. Elle est pour le méchant. Alors, ce que nous avons à faire dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement de garder les commandements que le Seigneur Jésus-Christ appelle « c'est mes commandements ». Celui qui garde ma parole, celui qui observe mes commandements, c'est que le Seigneur Jésus est venu avec des commandements. Et les commandements du Seigneur Jésus sont magnifiquement adaptés à l'Alliance Nouvelle. Ils sont dans le cadre de l'Alliance Nouvelle. Et alors, la différence entre les commandements de Jésus et les commandements de l'Ancien Testament, notamment les 10 commandements, mais non seulement les 10 commandements, mais tout le Lévitique, dans l'Ancien Testament, en somme, nous voyons que apparaissent des commandements qui sont comme un code, forment en quelque sorte un code civil même, n'est-ce pas? Bon, eh bien, ce n'est plus cela dans le Nouveau Testament. Dans le Nouvelle Alliance, ça n'est plus cela. Les commandements du Seigneur Jésus sont toutes ses instructions, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il nous a montré, tout ça, cet ensemble, forme un vaste domaine d'instructions, et c'est ça que Jésus appelle tantôt « ma parole », ou tantôt mes commandements. Et il dit de garder ces commandements, c'est-à-dire de les observer. Alors, mes amis, il y a certains chrétiens qui très sûrs qu'il faut observer les commandements, les 10 commandements, par exemple. Enfin, bon, naturellement, ces 10 commandements, ils seront observés si vous observez les commandements de Christ, qui sont beaucoup plus larges. Qui embrasse un domaine beaucoup plus étendu et qui ne nous sont pas donnés sous la forme d'un code. Les commandements du Seigneur Jésus, c'est pas « tu ne feras pas ceci et tu feras cela ». Non, non. C'est tout un ensemble d'instructions qu'il faut pénétrer, qu'il faut comprendre, qu'il faut aborder avec discernement. Ce que je vous dis là, c'est essentiel, chers amis. Essentiel à l'obéissance. Peut-être nous y reviendrons parce que c'est tellement essentiel. Donc, la vie d'obéissance de Christ est donnée à l'homme de foi. Elle est donnée non seulement comme exemple, comme modèle, mais elle est donnée comme source. Elle est donnée comme une victoire. Je vous ai dit que Christ avait rétabli le pouvoir d'obéir, la puissance d'obéir dans l'homme, dans la nature humaine. Et il nous donne cette nature humaine avec cette victoire qui lui est liée, qui l'a fait entrer dans cette nature humaine. Voilà l'homme nouveau qu'il nous livre. Donc, la vie d'obéissance de Christ est donnée à l'homme de foi. Il a pour vie nouvelle, non plus celle qu'il se donnait à lui-même, mais celle que Dieu lui donne en Jésus-Christ. La vie nouvelle, c'est une vie d'obéissance. Il doit saisir ce que Paul appelle dans Philippiens 2:13, le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Ah, Dieu nous donne le vouloir et le faire. Vous voyez, tout est prêt, tout est préparé. Ce que tu dois vouloir, eh bien, le voilà. Tu n'as pas à chercher, tu l'as devant toi. Le vouloir, le faire. Maintenant, si tu n'y appliques pas ta volonté propre, si tu ne veux pas saisir ce vouloir et ce faire, bon, ben, tu en es libre. Mais naturellement, il y aura des conséquences. Donc, le vouloir et le faire, pour obéir à toute chose, à Dieu, dans tous les détails de son existence. C'est notre existence, les détails de notre existence qui doivent être révélateurs de notre obéissance. Et alors, Jacques nous le dit, mais je m'arrête là, je ne vais pas aller lire dans Jacques. Jacques nous dit qu'alors, nous serons heureux. Heureux. Obéir, c'est retrouver le bonheur. Merci Seigneur. Amen.